vient d'être à 17h au studio Kalungu. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans l'édition d'information de ce jeudi 30 mars 2023. Tout de suite à les titres. Plusieurs acteurs de la société civile sont depuis ce matin à Niamey en renforcement de capacités sur la promotion et la protection des droits humains, une initiative de la Commission nationale des droits humains et du Centre de Genève pour la gouvernance du secteur de la sécurité des CAFA. Les enseignants du CS Moussa Moumouni, Jermakoy Dagadez ont été affectés dans d'autres communes de la région pour faire de grève. Dans ce journal, vous entendrez la réaction du syndicat des enseignants contractuels ainsi que la direction régionale de l'éducation. Dans le magazine de ce journal, un enseignant-chercheur de l'Université de Tillabéri explique comment les agriculteurs peuvent utiliser de l'urine comme engrais. Je suis Nafissa Adam Sirfo au micro. Hier, dans la rubrique Ramadan, nous avons parlé des femmes enceintes ou allaitantes qui sont temporairement exemptées de jeûner. En dehors d'elles, il y a des personnes qui sont totalement libérées d'observer le jeûne du mois de Ramadan. Dans quelles conditions une personne ne peut pas observer totalement le jeûne et qu'est-ce qui doit être fait pour elle à la fin du Ramadan? Réponse avec Oustaz Mustapha Ahmadou, membre du Conseil islamique du Niger et prédicateur. Il est interrogé par Rafika Taher.
Un voyageur, un transitaire qui n'est pas chez lui, qui a en rupture donc de provision, il est exempté. C'est lui qui est malade, au moins une maladie qui ne le permet pas. Maintenant, ceux qui sont exemptés complètement, une personne qui n'est pas pubère, n'est pas majeure, alors il est complètement exempté de jeûner. Maintenant, le fou, lui qui est malade mental, lui, il est exempté complètement donc de jeûner. Et les vieillards, ils sont exemptés totalement, mais ils peuvent, par exemple, pour ceux qui sont encore conscients, ou bien leurs parents peuvent leur enlever ce qu'il faut enlever pour les membres de famille en fin de carême, mais n'ont pas l'obligation de le faire. Donc ceux qui sont obligés de le rembourser, ce sont les malades qui peuvent être guéris, qui est pubère, qui est majeur, n'est-ce pas? Donc, ou alors il fait manger les miskines et vous donnez les moyens de condiments pour que les types puissent préparer et manger ça.
La Commission nationale des droits humains, CNDH, en collaboration avec le Centre de Genève pour la gouvernance du secteur de la sécurité des CAF, a organisé ce matin à Niamey un atelier de renforcement de capacité des OSC sur la promotion et la protection des droits humains. Écoutons Mme Kako Fatima, vice-présidente de la CNDH, sur des propos recueillis par Fatima Lemiaro.
L'objectif général de cet atelier est de promouvoir le respect des droits humains par les FDS et les autorités en charge du secteur de la sécurité dans le cadre de leur mission de lutte contre les groupes armés en mettant en contribution les organisations de la société civile. Parmi les résultats attendus, l'on peut citer les participants soient informés sur les principaux droits humains objets de violations dans le contexte de lutte contre le terrorisme. Les OSC sont formés sur les cadres juridiques et institutionnels de promotion et de protection des droits humains au Niger. Les OSC sont sensibilisées sur le rôle qu'elles doivent jouer dans la promotion de la protection et du respect des droits humains par les FDS et les autorités dans le cadre de leur mission de lutte contre les groupes armés. Les obstacles et défis auxquels sont confrontés les OSC dans la mise en œuvre des actions de promotion de la protection et du respect des droits humains par les FDS et les autorités dans le cadre de leur mission de lutte contre les groupes armés au Niger sont identifiés.
En bref, un comité national scientifique pour le bac harmonisé dans l'espace Iomoa a été installé le 28 mars à Niamey. Ce comité aura pour mission, entre autres, de mettre en œuvre les recommandations du comité scientifique régional, de mobiliser les acteurs au niveau national, d'assurer l'organisation et le suivi de la mise en place du baccalauréat harmonisé au niveau national, rapporte l'agence nigérienne de presse. Le baccalauréat de cette année se tiendra à partir du 19 juin. Parlons toujours d'éducation. 6 enseignants du CS Moussa Moumouni Jermakoy Dagadez ont été affectés et repartis entre les communes d'Ingal, Adrbisnat et Tchirozérine pour faire de grève par le conseil régional sur proposition du directeur régional de l'éducation. Cette mutation survenue en pleine année scolaire a surpris le syndicat des enseignants contractuels. C'est ce qu'explique le délégué adjoint du syndicat, Mamadou Abdoulaye. On l'écoute.
On a été surpris de cette décision parce qu'elle concernait un certain nombre d'enseignants qui, réellement, ce sont des gens qui répondent à un mot d'ordre de leur syndicat. Et c'est pour cette raison que pour que nous soyons sanctionnés, que cette décision a été prise. Or, à ce que nous sachions, conformément aux textes nationaux et internationaux auxquels le Niger a souscrit, la grève ne doit pas être un motif de sanction pour un travailleur. L'année tire à sa fin, maintenant on va affecter des enseignants. Cela vous montre réellement que c'est une décision qui n'a pas été pris sur la bonne base. Nous, nous allons suivre les voies légales pour voir dans la mesure du possible comment annuler cette décision.
Selon le directeur régional de l'éducation, ces enseignants constituant un syndicat ont bloqué le fonctionnement de l'établissement. On écoute Issa Maïdanda sur des propos recueillis par Moussa Maman.
Ces six enseignants-là ont créé un syndicat au sein de cet établissement-là. Et ce syndicat empêchait l'administration de fonctionner. Ils partaient perpétuellement en grève. Pire, ils bloquaient la bonne marche de l'établissement en bloquant des notes. Vu le blocage, le professeur de l'établissement avait convoqué une réunion avec les parents d'élèves à travers le COGES, qui a décidé et qui a demandé à l'administration scolaire de faire partir tout enseignant qui bloque la bonne marche de leur établissement parce qu'il s'agit de l'avenir de leur enfant. En tant que directeur régional, des enseignants sont difficiles à gérer, eh bien, il m'appartient de prendre la décision de les amener là où on peut les gérer très facilement. C'est ce que j'ai fait. Nous allons continuer dans la même lancée, en tout cas s'il y a des établissements dans lesquels il y a des professeurs qui essaient de bloquer le fonctionnement des établissements, eh bien, ils vont subir le même sort.
À Diffa, pour améliorer la scolarisation de la jeune fille de la région, la direction régionale de l'éducation a initié une récompense aux meilleurs élèves filles de 45 établissements. 135 filles ont bénéficié de cette récompense cette semaine. Écoutons Deyebou Ardo, directeur départemental de l'éducation de Diffa. Il est au micro de Guidi Abdrahman.
Nous avons bien voulu assister à cette remise pour aussi marquer notre satisfaction par rapport à cette initiative de la Direction régionale de l'éducation. Aussi pour vous encourager à être parmi les meilleures filles pour que vous bénéficiez de ces cadeaux-là, de ces prix. C'est à votre portée. C'est une belle initiative pour inciter les filles à travailler, mais de façon générale aussi pour maintenir la scolarisation de façon générale. Parce qu'on a remarqué que pour rehausser le taux de scolarisation, il faut agir sur les filles. Elles sont de loin les plus nombreuses. Et nous avons remarqué qu'elles sont vulnérables, plus vulnérables. Alors il faut les suivre de près. Il faut les inciter à travailler. Il faut les inciter à se maintenir dans le système.
Le 25 mars, une mission du collectif des acteurs de la société civile d'Agadez Koskraz s'est entretenue avec les populations de la commune rurale de Danet dans le département d'Arlita. L'objectif était de les sensibiliser sur les conséquences de l'exploitation de l'uranium et surtout son impact sur l'environnement. Alassane Barka, président du collectif, explique au micro de Anissé Karim.
Nous avons été à Danet pour assister les populations afin de préparer une plateforme commune. Nous étions toujours en contact avec ces populations qui nous ont donné un feu vert de les représenter et d'arracher leurs droits. Nous étions obligés de les informer de l'étape actuelle du procès contre la SOMIDA. Nous avons développé effectivement les enjeux liés à l'extraction de l'uranium, les enjeux sanitaires, les enjeux sociaux, les enjeux environnementaux. Les gens ont bien compris, surtout l'information qui était pendant plus de 40 ans cachée a été révélée au public que l'uranium a des effets dévastateurs sur la santé humaine parce qu'il agit même sur les gènes biologiques de la personne humaine. Et on est sorti de cette réunion très renforcé et avec l'aval sans condition de ces populations-là qui sont estimées autour des deux sites, Umbraren et Somida, à 23 535 personnes qui sont concernées.
Dans la commune d'Alela, située dans le département de Birnunkwani, le village de Munseka a une population comprise entre 3000 et 5000 habitants. Cette population est confrontée à un problème d'eau. Les pompes du village sont secs à cause de l'arrêt de leur forage en panne. Chebou Amani, directeur de l'hydraulique de Birnunkwani, explique au micro de Asman Moussarzika.
Le forage de Munseka ne fonctionne plus. Or, c'est un gros village. Lors du recensement général de la population en 2012, il comptait à peu près 3000 habitants. Aujourd'hui, on peut estimer cette population à 4000, voire 5000 habitants. Si toute cette population n'a pas d'eau, c'est un problème. Encore, il n'y a pas de puits et l'eau de la mare n'est pas consommable. Mais le gouvernement s'est engagé à réhabiliter les châteaux avec des équipements tout neufs. Mais il faut que les gens changent de mentalité. Il y a plusieurs pompes qui ne fonctionnent pas aujourd'hui du fait de certains comportements de la population.
« Le magazine de ce journal pour vulgariser l'utilisation de l'urine comme engrais auprès de populations agricoles, les chercheurs agronomes misent sur la sensibilisation. En effet, selon les chercheurs, une majeure partie des agriculteurs sont touchés par la pauvreté et ne peuvent pas accéder aux matières organiques pour fertiliser leurs champs, d'où l'importance économique d'utiliser l'urine riche en azote. Dr Seynou Bodo, enseignant-chercheur à l'université Boubacar Ba de Tillabéri, explique au micro de Samira Rouafi.
L'urine n'est pas un compost, mais c'est plutôt un engrais biologique. L'urine, c'est à l'image, par exemple, de l'urée. Donc l'urée qui est un engrais essentiellement constitué, par exemple, de l'azote que les populations utilisent dans le cadre de la fertilisation azotée. Et donc l'urine a la même composante. Du coup, comme c'est un engrais qui est produit par nous-mêmes, nous sommes en train donc de faire sa valorisation, sa vulgarisation. Après, donc des agriculteurs qui, au Niger, il faut le dire, sont caractérisés par la pauvreté. Donc cette pauvreté-là ne le permet pas souvent donc d'avoir une quantité suffisante de bétail qui va leur produire de la fumure organique pour le mettre dans leur champ. Ça ne leur permet pas également d'acheter par exemple des engrais chimiques ou souvent donc des entrants pour booster les rendements donc de leur culture. Donc du coup, nous, on a eu cette idée-là de dire bon, aux gens, bah, écoutez, l'urine que vous produisez, au lieu que ça part dans la nappe et polluée, vous pouvez donc l'utiliser et c'est gratuit. Et ça permet justement donc de booster les rendements.
Alors comment est-ce que cette urée qui est prise peut-il être utilisée?
L'urine, c'est très concentré en azote. Donc, je vous donne juste un exemple. Regardez là où les ânes urinent. Mais regardez à l'école, là où les coins où les enfants partent uriner, rien ne pousse. Pourquoi? Parce que l'urine est très concentrée en azote, c'est très riche en azote. Comment il faudrait le faire? Il faudrait le diluer. Par exemple, quand vous avez un litre d'urine, vous mettez un litre d'eau pour le diluer, donc vous avez 2 litres d'engrais. Donc, c'est vraiment un processus, on va dire, de dilution qui permet donc de casser justement cette concentration-là et ça vous permet à la fois également donc de doubler votre engrais. Donc, c'est ça qu'en fait. Mais après également, lorsque vous êtes dans la période des pluies, par exemple juste après une pluie quand vous mettez, donc ça veut dire que le sol est déjà saturé en eau et souvent les gens ne font même pas la dilution, ils appliquent ça directement et puis ça donne. L'inconvénient c'est que quand vous mettez par exemple de l'urine et que la pluie ne tombe pas, ça peut être la cause de la mort de votre culture parce que ça va faire ce qu'on appelle le chaudage, ça va brûler la culture parce que tout simplement c'est concentré.
Est-ce qu'on peut utiliser l'urine dans la culture champêtre et maraîchère?
Ben oui, parce qu'en fait quand vous faites de la laitue, vous pouvez utiliser donc de l'urine pour effectivement mettre ça dans le sol. On ne le met pas en fait sur la laitue. Enfin, même si tu le mets sur la laitue lorsque tu arroses, ça disparaît. Mais non, en fait, l'idée c'est de vraiment le mettre dans le sol. Et quand vous le mettez dans le sol, en réalité, la plante va prélever l'azote. Et quand vous allez manger, vous n'allez pas sentir l'odeur donc de l'urine.
C'est la fin de ce journal. Merci à vous de nous avoir suivis. Restez avec nous pour la suite de nos programmes.
Studio Kalangu.
Suivez les programmes du Studio Kalangu
à Magaria
sur la radio Kitari
101.5 MHz,
à Zender
sur la radio Shukra FM
105.5 MHz,
à Tanout
sur la radio Damergou
99 MHz,
à Difa
sur la radio Amfani
100 MHz,
à Menosorowa
sur la radio Mangari
95.1 MHz,
à Ingigmi
sur la radio Dileram
99 MHz,
à Kabalewa
sur la radio Mambio
99 MHz,
à Agadez
sur la radio Nomad FM
101.9 MHz
et sur la radio Sahara
97 MHz,
à Arlit
sur la radio Ikokan
95.1 MHz
et sur la radio Kausen
94 MHz,
à Chirozerine
sur la radio Azuru
95.1 MHz.
Studio Kalangou.